Il est 7h.
Aujourd'hui, on ne sait pas exactement le nombre de vaccins qu'on aura. Et ça, c'est pas normal. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se faire vacciner. Maintenant, il faut que ça suive.
Il faut que ça suive, c'est tout le problème. Comme ce maire, beaucoup d'élus s'inquiètent du manque de doses, alors qu'aujourd'hui, la campagne de vaccination s'élargit à près de 6,5 millions de personnes. Une charte des principes de l'islam de France, formellement approuvée par le CFCM, le Conseil français du culte musulman. On vous dira ce que ça implique. L'opposant russe Alexei Navalny, arrêté alors qu'il venait de poser le pied à Moscou. Il arrivait d'Allemagne où il était soigné après son empoisonnement l'été dernier. Dans ce journal, un procès emblématique de la violence sur les enfants, mais aussi de l'incapacité des autorités à réagir à temps. Et puis, vous le disiez Mathieu, c'est la semaine du sport féminin, l'occasion de mieux faire connaissance avec Stéphanie Frappard, la seule française à arbitrer des footballeurs.
Juste après ce journal, l'après-Brexit, le Royaume-Uni s'éloigne de l'Union européenne en termes de droit du travail. Attention au dumping, l'éclairage éco de Nicolas Barré. Joe Biden va-t-il faire table rase des années 30? Le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport, Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un sérieux coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. À partir d'aujourd'hui, les plus de 75 ans qui ne vivent pas en maison de retraite, ainsi que les personnes présentant des pathologies à haut risque, peuvent se faire vacciner dans les 833 centres français.
Tout est prêt dans celui de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, où s'est rendu Marion Gauthier, mais c'est déjà l'inquiétude sur le manque de doses.
Donc sur votre droite, vous avez trois boxes de vaccination, un dernier sur votre gauche.
Quatre préfabriqués au milieu d'un immense gymnase et derrière chacun de leurs rideaux, un ordinateur déjà ouvert et des seringues sous vide à disposition. Tout est prêt, ou presque.
Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin dans les frigos.
420 doses doivent arriver dans la matinée, pas assez pour soulever l'enthousiasme du maire de Courbevoie, Jacques Kosowski, en arrêt devant l'unique réfrigérateur du centre.
Donc nous pouvons vacciner environ 50 à 60 personnes par jour. Et disons, on est bien malheureux d'avoir que 420 vaccins.
Ça va vite, 420, ils vont être vite épuisés.
Oui, justement, mais nous avons pris quand même des rendez-vous pendant 5 semaines, en étant optimistes.
Des rendez-vous pris sans savoir s'ils pourront être honorés. Pour Jacques Kosowski, c'est ce manque de visibilité à long terme qui ralentit la campagne.
Aujourd'hui, on ne sait pas exactement le nombre de vaccins qu'on aura. Et ça, c'est pas normal. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui ont la Covid, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se faire vacciner. Maintenant, il faut que ça suive. On ne peut pas attendre.
On pourrait voir plus grand, vacciner plus ici, dit-il. Au lieu de ça, il faut faire durer les stocks et attendre la prochaine livraison.
Marion Gauthier. Ce sont donc 6 400 000 personnes qui sont appelées à se faire vacciner. Elles seront d'autant plus motivées que les nouveaux variants inquiètent de plus en plus. Un cas du Sud-Africain détecté à La Réunion, 4 à Mayotte. La Réunion qui, à partir d'aujourd'hui, impose un isolement de 7 jours à toutes les personnes qui arrivent sur l'île. C'est déjà le cas pour la Guadeloupe et la Martinique.
Emmanuel Macron tenait beaucoup à ce que l'islam de France affirme clairement son attachement à la République. Eh bien, le président a obtenu gain de cause.
Oui, hier soir, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a formellement approuvé sa charte de principes. Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Cette charte, elle a permis de se mettre d'accord, mais ça n'a pas été une mince affaire.
Oui, les discussions ont été très tendues, très longues, faisant craindre une explosion du CFCM. Mais après 3 semaines de déchirement sur la place publique entre le président actuel, Mohamed Moussaoui, et le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, ce texte est finalement adopté. Les discussions ont coincé notamment autour de la définition d'un islam politique ou de celle du changement possible de religion pour un musulman, point finalement adopté dans la charte, ainsi que la question de l'égalité homme-femme et la condamnation de l'ingérence de pays tiers, un texte qui dénonce également les actes hostiles aux musulmans en reconnaissant qu'il s'agit de faits liés à une minorité extrémiste. Il aura fallu que ces représentants soient reçus séparément samedi dernier, puis ce samedi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour réussir à se mettre d'accord. Un accord sous tutelle donc, mais ce texte est fondamental pour l'exécutif puisqu'il est le préalable à l'instauration du projet poussé par l'Élysée de Conseil national des imams, sorte de certification des imams de France pour sortir de l'islam consulaire. Un accord d'autant plus urgent avec le début de l'examen aujourd'hui du projet de loi séparatisme à l'Assemblée. Le président Emmanuel Macron les recevra d'ailleurs à midi.
Virginie Riva.
7h04 sur Europe 1. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire digne d'un roman d'espionnage. L'empoisonnement d'Alexei Navalny, figure de la contestation russe, soigné en Allemagne. Il rentrait en Russie pour la première fois hier soir.
Oui, mais à peine arrivé, il a immédiatement été arrêté. Quelques minutes plus tôt, il se montrait pourtant optimiste.
Ici, c'est chez moi. C'est de là que je viens. Et quand il me demande si j'ai peur, je n'ai pas peur. Je vais maintenant me rendre au contrôle des passeports en toute tranquillité. Je vais sortir et rentrer chez moi parce que je sais que j'ai raison et que les affaires criminelles lancées contre moi sont fabriquées de toutes pièces.
Alexei Navalny voulait peut-être conjurer le sort. Il n'est pas du tout rentré chez lui. Il a été placé en détention dans un commissariat de la banlieue de Moscou. Détention provisoire au moins jusqu'au 29 janvier, le temps que la justice se penche sur son cas. Il pourrait être condamné à 3 ans et demi de prison pour ne pas avoir respecté les conditions d'une peine avec sursis datant de 2014. La France, l'Union européenne et les États-Unis condamnent fermement cette arrestation.
Les États-Unis où les pro-Trump tentent toujours de se faire entendre. De petits groupes de manifestants se rassemblent devant les bâtiments officiels de chaque État.
Oui, en revanche, ils ne risquent pas d'approcher le Capitole à Washington où se tiendra mercredi la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Nous serons sur place dans le journal de 8h.
Elle s'appelait Yana. Elle avait 6 ans. Cette petite fille est morte il y a 3 ans à l'hôpital des violences infligées par sa mère et son beau-père. Le procès s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Bourges.
Une affaire sordide qui met aussi en lumière les dysfonctionnements de la justice, incapable de protéger cet enfant, Marion Dubreuil.
Yana est abandonnée fin décembre à l'hôpital, dans un état critique, sous une fausse identité. C'est la dernière tentative désespérée de sa mère et son compagnon pour échapper à la justice. La fillette décède quelques heures plus tard. L'autopsie révèle l'ampleur des sévices qu'elle a subis, brûlures, morsures, hématomes. Pendant plusieurs mois, la mère a dissimulé les violences que son compagnon infligeait à Yana, alors même que la famille était dans le viseur des services sociaux. Dès le mois de juin, en effet, le petit frère qui portait les traces de coups est placé dans une famille d'accueil. Yana, en revanche, est restée avec sa mère, qui s'est engagée auprès du juge aux affaires familiales à quitter son conjoint et retourner vivre chez ses propres parents. Ça n'est jamais arrivé. La jeune femme est allée jusqu'à se priver du droit de visite à son fils pour échapper aux services sociaux. Il a fallu attendre le mois d'octobre pour que la justice ordonne enfin le placement d'Yana, jamais exécuté. La petite fille était déscolarisée, maintenue recluse chez sa mère. Les policiers se sont présentés à plusieurs reprises au domicile, en vain. Le parquet de Bourges, à l'époque, n'a pas ouvert d'enquête pour soustraction d'enfants.
Et plusieurs associations de protection de l'enfance se sont constituées partie civile. 5 accusés dans ce procès, tous de la famille de la fillette. La mère et le beau-père risquent la perpétuité. Une femme, pour la première fois, à la tête de la Bourse de Paris, Delphine Darmazit, entre en fonction à la mi-mars. On l'a appris ce matin, elle était jusqu'ici numéro 2 de la banque en ligne d'Orange.
Et on en parlait dès la semaine dernière, des femmes à des hauts postes, des plus hauts postes. C'est aussi ça, le monde qui change. Et à l'occasion de la semaine du sport féminin, on a décidé aujourd'hui de s'intéresser à un symbole, Stéphanie Frappard.
Oui, arbitre internationale de football, pionnière, connue dans le monde entier. Elle a récemment été sacrée personnalité numéro 1 du foot français par nos confrères de l'équipe. Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour, bonjour à
Alors,
tous.
D'abord, on va revenir sur le parcours assez incroyable de Stéphanie Frappard.
Oui, c'est vrai que Stéphanie Frappard est la seule Française à arbitrer des hommes. En 2014, cette ancienne joueuse est première à arbitrer en Ligue 2, puis en Ligue 1, il y a 3 ans. Désignée pour la finale de la Coupe du Monde féminine, elle a, début décembre, dirigé son premier match de Ligue des champions masculines à 37 ans. De nature discrète, voilà ce qu'elle nous disait d'elle récemment.
Un arbitre, c'est pas quelqu'un qui arrive du jour au lendemain à ce niveau-là. Voilà, moi j'ai une carrière de 20 ans, donc au fur et à mesure, j'ai montré que j'avais ma place. J'ai jamais eu de soucis avec les joueurs, avec les dirigeants. Voilà, dans les clubs, j'ai toujours été très bien accueillie. Un peu de bienveillance, un peu d'ouverture d'esprit avec eux. Et voilà, moi, j'ai pas changé ma personnalité. Et voilà, ça passe bien.
Stéphanie Frappard, qui arbitrait hier soir Lyon-Metz en Ligue 1, est aujourd'hui une source d'inspiration pour les plus jeunes, comme Maïka van der Stichel, 26 ans.
C'est vraiment un vrai modèle parce qu'elle a fait des choses qu'aucune autre arbitre n'a fait. Maintenant, les femmes montrent qu'elles sont capables d'arbitrer chez les hommes. Donc, les esprits s'ouvrent, on peut dire. Ça fait rêver, hein, c'est sûr.
Et qu'est-ce qu'une femme peut gagner à être arbitre ?
Moi, ce rôle, au début, il ne me convenait pas parce que j'étais très introvertie. À un certain moment, j'ai eu un déclic. Grâce à l'arbitrage, du coup, j'ai réussi à m'affirmer, montrer que voilà, on a une personnalité, que c'est nous qui dirigeons le match.
Et Maïka, qui est arbitrée samedi en première division féminine, fait partie d'une promotion de 8 arbitres en voie de professionnalisation.
Alors justement, est-ce que d'autres femmes sont prêtes à rejoindre Stéphanie Frappard à ce niveau ?
Eh bien, il va falloir être patient, hein, comme l'explique l'ancienne arbitre internationale Alain Sars, aujourd'hui directeur technique adjoint de l'arbitrage à la Fédération française de foot.
Stéphanie, c'est un joyau, c'est la meilleure arbitre du monde, mais elle s'est construite sur la durée. C'est quelqu'un qui était très forte au niveau du caractère, très forte au niveau athlétique, et donc très forte dans la lecture du jeu. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'inculquer vraiment une culture du football à nos filles, et puis on espère qu'entre 3 et 5 ans, on devrait avoir quelqu'un qui arrive au plus haut niveau fédéral, vraisemblablement dans le secteur pro, comme la Ligue 2, voire même la Ligue 1. Oui.
Aujourd'hui en France, on compte 872 femmes arbitres dans tous les championnats, contre 23 000 hommes. Le chemin s'annonce donc long pour arriver à une parité dans ce domaine.
Ah, c'est sûr, hein, 872 pour 23 000. Merci Corinne Boulou pour ce dossier concocté avec la complicité de Jean-François Pérez et Simon Rubin. Stéphanie Frappard, vous l'avez dit, arbitrait hier soir la rencontre qui a vu la première défaite pour Lyon depuis 16 matchs. L'OL s'est incliné à domicile 1-0 face à Metz et perd la tête du classement dominé par le PSG et Lille.
Qui sont les meilleurs restaurateurs de France ? 1, 2 ou 3 macarons ? Réponse à la mi-journée.
Ah oui, c'est aujourd'hui que le guide Michelin dévoile son palmarès 2021 pour des restaurants malheureusement fermés depuis 2 mois et demi. 57 établissements seront distingués. En revanche, certains chefs ont décidé d'arrêter la quête aux étoiles. Quelques avantages, trop d'inconvénients. Ils préfèrent revenir à une cuisine plus simple, sans pression, comme en Normandie où s'est rendu Pierre Herbulot.
Pour la première fois depuis 35 ans, Gilles Tournadre est serein. Il y a 6 mois, il écrit au guide Michelin ses 2 étoiles. Il n'en veut plus. Trop de pression.
Moi, à chaque sortie du guide Michelin, pendant 8 jours, je stressais.
Le chef rouennais souhaite beaucoup plus de simplicité, un peu comme un bistrot.
Lorsqu'on fait des amuse-bouches, lorsqu'on fait des petits fours, lorsqu'on fait un pré-dessert, c'est du personnel. C'est une valeur de la marchandise. Donc toutes ces choses-là, c'est ça que je veux descendre un peu les frais fixes pour pouvoir proposer aux clients un prix au plus juste.
Même esprit chez Sakana à Honfleur.
Le menu gastro est à 150. Aujourd'hui, au déjeuner, on mange à 16 euros.
Le confinement a métamorphosé le restaurant double étoilé d'Alexandre Bourdas. Boulangerie le matin, salon de thé entre les services, midi et soir, sushi à emporter, loin, très loin du gastro un peu guindé.
Je pense que le lieu sera vraiment abouti quand, par exemple, à 18h, il y aura des petits vieux qui viendront boire un coup de blanc, ils jouent aux cartes et après les gens viendront derrière, s'enchaîneront à un dîner. En fait, qu'il n'y ait pas de règles et pas de système, c'est juste un lieu où on rentre, on profite et voilà.
À défaut de lui permettre de figurer dans le plus célèbre des guides, la nouvelle formule dope le chiffre d'affaires du restaurant, plus 40% dès le premier mois. À Honfleur, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et pas de cérémonie de gala, elle était prévue à Cognac et a bien sûr été annulée. L'annonce des étoiles du Michelin, ce sera en vidéo à 13h depuis la Tour Eiffel.
Il faut d'abord avoir une pensée pour ceux qui ont été décorés, promus l'an dernier. Je voyais ça dans la presse ce matin. Effectivement, ils ont eu une étoile ou deux l'an dernier. Personne n'a pu en profiter, les restos étaient fermés. C'est une année compliquée pour les restaurateurs, vous le savez. Maintenant, j'ai quelques questions moi à poser à Gwendal Poulenec, qui est le directeur international du Guide Michelin, qui sera notre invité dans le journal de 8h tout à l'heure. Comment on fait un Guide Michelin une année où les restos sont fermés ? Sérieusement, est-ce qu'ils ont réussi à aller goûter comme ils le font d'habitude, à l'aveugle, essayer cette expérience ? Il va nous raconter tout ça alors qu'on attend le Guide Michelin 2021 à la mi-journée aujourd'hui. Merci Hélène Zelani, c'était le journal de 7h sur Europe 1, il est 7h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et vous restez bien avec nous toute cette semaine, l'opération Sport Féminin Toujours, on en parlait à l'instant, qui vise à promouvoir le sport au féminin dans les médias. Une voix pour en parler aujourd'hui, Nathalie Péchala. C'est la présidente de la Fédération Française des Sports de Glace, arrivée en plein scandale MeToo du sport, vous vous en souvenez. Les révélations de Sarah Abitbol, l'éviction de Didier Gayagué, c'était il y a un an. Sport et féminisme. L'ancienne patineuse Nathalie Péchala, invitée du tête-à-tête Europe Matin tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco Nicolas Barret et le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h15 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Ça n'a pas traîné. Quelques jours après la mise en œuvre du Brexit, Londres réfléchit déjà à s'écarter des règles européennes.
Oui, et précisément, le ministre britannique des entreprises réfléchirait à revoir certaines règles sur le droit du travail, notamment celles qui plafonnent le temps de travail à 48 heures par semaine. Alors, il s'agit d'une directive européenne qui s'applique normalement sur tout le continent. Or, en vertu de l'accord du Brexit, Londres s'est engagé à ne pas diverger, c'est le mot-clé, des règles en vigueur en Europe. Ça a été le point dur des négociations pendant des mois. Les Européens disant aux Britanniques, si vous voulez continuer à accéder à notre marché, eh bien il faudra accepter nos règles.
Oui, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale.
Exactement, c'est le principe du level playing field, jouer à armes égales. Or, si on en croit le Financial Times, qui d'ailleurs s'en inquiète, les plus conservateurs dans l'entourage de Boris Johnson et le Premier ministre lui-même étudieraient déjà un détricotage des règles sur le temps de travail pour donner un avantage aux entreprises britanniques. Rien n'est officiel à ce stade, mais on voit bien la tentation finalement de tester la solidité de l'accord du Brexit. Si Londres diverge, il est prévu un mécanisme de sanctions. L'Union européenne peut imposer des droits de douane. Pas question en effet que nos entreprises soient pénalisées par rapport à des concurrents britanniques qui seraient soumis à des règles plus souples.
On veut éviter le dumping social à nos portes.
Oui, sauf que selon l'accord signé en décembre de haute lutte, pour sanctionner Londres, il faut que Bruxelles prouve que les règles britanniques portent atteinte à la concurrence. Bref, ça peut être compliqué et dégénérer en contentieux. Alors en vérité, les milieux d'affaires britanniques ne sont pas spécialement demandeurs d'un tel assouplissement. Le droit du travail outre-Manche est déjà plus souple qu'ailleurs en Europe. Et puis les entreprises britanniques, surtout, craignent évidemment que l'Europe ne les sanctionne avec des droits de douane supplémentaires. Mais le fait qu'à peine 15 jours après l'accord du Brexit...
C'est ce que j'allais dire, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est mis d'accord autour d'une table.
Exactement, le fait que 15 jours après, Londres envisage déjà de contourner cet accord, ça augure mal de la suite et ça donne peut-être un avant-goût de ce que risque d'être l'après-Brexit, une liste interminable de contentieux entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Et vous nous le raconterez, Nicolas Barret. C'est peut-être sûr. Pas tous les épisodes, on verra ce que ça donne. Merci Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et je le disais, on va parler avec vous de l'événement de la semaine, l'investiture de Joe Biden.
Dans 3 jours à midi, Joe Biden prêtera serment. Tant mieux, c'est l'heure précise du couvre-feu. Et ça tombe bien que les Français puissent suivre la cérémonie en direct, puisqu'ils ont suivi la campagne comme si c'était une élection française, comme s'ils votaient, comme si eux aussi avaient le pouvoir de répudier le Donald et de conjurer le mal. Désormais, ils vont juger sur pièce.
Alors hier, Joe Biden a dévoilé sa feuille de route « Restaurer l'âme de l'Amérique qui a été endommagée ».
En France, on aime bien la restauration quand il s'agit de monuments en péril, mais pas trop pour les transitions politiques. La restauration est le programme affiché de Joe Biden. Son premier acte en politique étrangère sera de réengager les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, dont Donald Trump avait fait des confettis. Alors évidemment, Paris applaudit cette mesure symbolique qui ne coûte pas cher. En revanche, Joe Biden n'envisage pas de réinstaller l'ambassade américaine à Tel Aviv, ni de remettre à niveau les troupes en Afghanistan ou en Irak, ou encore de relever les accords commerciaux avec la Chine, de rendre leurs pétrodollars aux Iraniens, d'abattre les bouts de mur à la frontière mexicaine. Les faits accomplis de Donald Trump resteront accomplis. Avec Biden, ce sera une restauration de façade.
En politique intérieure, le mot d'ordre, c'est l'Amérique unie.
C'est le beau thème de la cérémonie d'investiture, mais quelques heures plus tard, dans ce même Capitole, s'ouvrira le procès en destitution de Donald Trump pour incitation à l'insurrection. Joe Biden a été élu avec pour programme le rejet du trumpisme. Il n'a pas convaincu la moitié des Américains qui ont voté pour l'ancien président, malgré ses outrances, malgré la crise, malgré le Covid qui tue 3000 malades par jour. Pour cela, empêcher Trump de se représenter est une vengeance aveugle. Elle unira peut-être l'establishment démocrate et républicain, elle ne va pas réconcilier les Américains. En prime, le Congrès, tout occupé à ce procès, n'aura plus le temps de voter le plan de relance économique ou de confirmer les membres du gouvernement. Dans 3 jours, le compte à rebours sera terminé, le compte de fées de Joe Biden aussi. Et le Donald sera toujours vivant.
Merci Vincent Hervouet, le regard international, tous les matins sur Europe 1. Il est 7h20. Tous les sports ont droit de citer dans l'édito sport de Virginie Fulpin le matin. Dans quelques secondes, écoutez bien, on va vous faire rêver avec un record du monde de triple saut. Oui, alors maintenant je vais vous demander de vous figurer 18 mètres. Comme ça, 18 mètres, la barre des 18 mètres dépassée. Pourquoi c'est important? Réponse dans un instant, juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un record du monde est tombé ce week-end, celui du triple saut en salle. Et pour le coup, on n'en parle jamais. Et je vais être parfaitement transparent avec nos auditeurs. Hors antenne, avant l'émission, Virginie m'a passionné pour le triple saut en salle. Hugues Zango, c'est son nom. Il a sauté 18,07 m samedi en Auvergne. Ça ne nous dit pas forcément grand-chose comme ça si on n'est pas incollable en athlétisme. Mais pour vous, Virginie, cet athlète et son record méritent toute la lumière.
Bah déjà, pour vous aider à vous rendre compte, Mathieu, mesurez donc 18,07 m dans votre jardin ou dans votre rue. Vous allez comprendre ce que c'est que d'effacer cette distance en 3 sauts. Hein. 18 mètres, c'est une des barres mythiques du sport. Un peu comme de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Hein. Ceux qui les font tomber entrent dans un cercle très fermé. Avant Hugues-Fabrice Zango, il n'était que 5 dans l'histoire à l'avoir fait, mais toujours en extérieur, c'est-à-dire avec un peu de vent qui peut vous aider légèrement. En salle, le Burkinabé est le premier, le seul. En plus, ce record du monde a eu lieu à l'ère du Covid. Rares sont ceux qui pourront dire « j'y étais hein. ». Parce que non, évidemment, il y avait... Bah oui, mais il n'y avait personne en tribune à Aubière, près de Clermont-Ferrand. Et je trouve ça encore plus fort d'avoir battu ce record dans ces conditions, sans ce public qui réussit à donner des ailes aux athlètes. Hugues-Fabrice Zango n'a pu compter que sur lui-même. Il a pris son envol tout seul samedi pour retomber 18,07 m plus loin. Et forcément, il n'a pas pu avoir de standing ovation. Même les caméras étaient absentes. Et on ne peut même pas ouvrir l'équipe pour y lire un compte-rendu qui nous donne l'impression de vivre et de revivre cet exploit, hein, puisque les journalistes sont en grève. Dans ce genre de moment, on comprend encore un peu plus l'importance de ce journal et du travail de ceux qui le font. L'exploit d'Hugues-Fabrice Zango ne peut pas rester invisible. Il mérite toute la lumière.
Alors, on a presque perdu l'habitude de voir tomber les records du monde comme ça.
Bah, entre les compétitions annulées, reportées, à huis clos, et puis la fragilité psychologique des athlètes. Dans une période comme celle-là, il faut viser pour un record du monde. C'est aussi pour ça que je veux qu'on mesure bien la portée de ce que vient de réaliser Hugues-Fabrice Zango. On ne sait rien sur l'avenir. On ne sait pas si les Jeux Olympiques de Tokyo auront bien lieu. Donc il ne sait pas à quoi il se prépare. Et lui, il réussit à faire abstraction de tout ça pour s'envoler à 18,07 m. Chapeau, oui. Il faut quand même avoir une sacrée capacité à vivre l'instant présent et à se concentrer uniquement sur son travail pour y arriver. Et puis je disais tout à l'heure qu'il était seul samedi, Hugues-Fabrice Zango. C'est faux. À côté de lui, son entraîneur, Teddy Tamgo, c'est le Français qui détenait le record du monde en salle jusque-là avec ses 17,92 m. L'élève a dépassé le maître, voilà comment il a commenté tout sourire l'exploit de son protégé. C'est ça aussi le sport, transmettre, se dépasser et se faire dépasser. La vie quoi, la vie malgré tout. Alors non, j'ai pas envie qu'on soit indifférent face à une telle performance.
18,07 m, et quand vous citez Teddy Tamgo et ses 17,92 m, on comprend que les 15 cm, c'est les 15 derniers, ça doit être les plus durs à aller chercher.
Bah, et puis la barre psychologique des 18 mètres pile.
Alors j'ai regardé du coup, 18 mètres, qu'est-ce qui fait 18 mètres pour qu'on se rende compte? Eh bien, c'est la longueur maximale pour un poids lourd en Union européenne. Voilà, vous vous rendez compte, vous voyez un 40 tonnes, c'est 18,75 m. Non, vous partez de derrière et vous passez de devant. C'est quand même incroyable, absolument 18 mètres à sauter en 3 sauts quand même.
Oui,
trois sauts.
Évidemment.
J'ai appris des choses sur les jambes d'appui cette nuit avec Virginie Fulpin. Je crois que je vais essayer à la maison, dans le jardin, de faire peut-être 1,80 m.
On fera une petite vidéo.
En trois sauts. Non, je crois pas. Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins. 7h26, je retrouve Stéphane Bern à présent pour parler d'histoire. 18 mètres, vous les sautez?
Non, j'ai encore du mal. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On ne nous dit pas tout, disait parfois notre sympathique collègue des fins de matinée sur Europe 1, Anne Roumanoff. Et quand la vérité éclatait enfin, ça signifiait qu'on avait découvert le poteau rose. Découvrir le poteau rose, mais d'où vient cette expression?
Alors on a découvert le poteau rose, on a compris la supercherie et on la dénonce. C'est une expression qui a un lien avec... Est-ce que c'est une expression qui a un lien avec des roses qui seraient dans un pot?
Alors, plusieurs explications cohabitent ainsi. On a longtemps imaginé que des soupirants glissaient sous les pots de fleurs des balcons, des femmes adultères, des petits billets doux, et que les maris trompés, en découvrant les lettres, en soulevant donc les bacs à fleurs, découvraient également le pot aux roses. Bon, sachant que les pots de fleurs n'existaient pas avant le XIIe siècle, on peut mettre de côté cette explication.
Attendez, il faudra qu'on s'arrête un jour sur cette information. Il n'y avait pas de pots de fleurs avant le XIIe siècle.
Non, franchement.
Mais qu'est-ce qu'on vendait chez Truffaut?
Pour certains linguistes, Mathieu, le pot aux roses était le réceptacle où les femmes entreposaient leurs fards à joues. Les hommes qui découvraient le pot aux roses prenaient donc conscience de la supercherie que peut parfois être le maquillage quand la dame poudrée n'a plus rien à voir avec la dame au naturel. Ce qui est certain, c'est que la rose a toujours symbolisé le secret, tout comme la virginité. C'est aussi la fleur que Cupidon a donnée à Harpocrate, le dieu du silence, pour qu'on ne dévoile pas les amours de Vénus. Vous voyez, l'expression de la découverte du pot aux roses n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Loin de là, et c'est tant mieux.
Quand j'étais plus jeune, j'allais dire petit, mais plus jeune, je croyais que c'était un poteau rose.
Oui.
Qu'on avait découvert un poteau rose.
Bon, c'est exactement ce que pensait aussi Mathieu Noël, et j'ai été obligé de démentir
corriger
cette explication, absolument.
Stéphane, on vous retrouve justement avec
Justement avec Mathieu Noël, oui, avec trois personnages du jour. Oui, on fait le jeu des dames aujourd'hui. On réunit Aliénor d'Aquitaine, Catherine II de Russie et Zaya Ière de Paris. Vous voyez, Zaya II, enfin Zaya quoi. Leur point commun, elles sont de grandes stratèges pour réussir dans la vie.
Zaya Ière de Paris. Paris. Merci Stéphane Bern. Ça a dû vous en coûter quand même, hein, d'écrire Zaya première de Paris.
Ah oui, ça.
Stéphane, 16h historiquement votre avec Mathieu
Noël.
Enfin,
moi, qu'à Benzema et aux autres.
7h28, on arrête là. Et c'est à Laurent Cabrol pour la météo.
Avec un ciel clair et calme sur l'ensemble de la France, excepté sur la Bretagne, le Cotentin et la Loire-Atlantique. Vous allez voir arriver la pluie dans le courant de la matinée et elle va ensuite envahir toutes ces régions avant ce soir. Dans les autres contrées, eh bien, ce sont les éclaircies qui vont faire la différence. Éclaircies un peu courtes sur la Haute-Normandie, le Nord-Picardie, sur le Berry, le Morvan, la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes, le Mâconnais, la Lorraine et l'Alsace, car il y a énormément de brouillard souvent dans ces régions. Donc, courtes éclaircies. À Lyon, elles ne seront pas très énormes. À Paris, elles seront pas mal. Il va faire presque beau sur Paris. Sur le sud-ouest, le Limousin, l'Auvergne et les vallées alpines, alors là, des larges, très très larges éclaircies. À Bordeaux, les brouillards sont givrants, soyez prudents, et ensuite le soleil sera là. Et puis, Midi-Pyrénées, bassin méditerranéen, Cévennes, Alpes du Sud, un soleil très vite, notamment à Toulouse, où il fera beau. Le vent sur Méditerranée ou en Méditerranée, 50 à 60 km/h. Les températures ce matin, bon, bah, elles sont froides, bien sûr, puisque nous avons, je le disais, des brouillards givrants qui sont très nombreux sur la France. Je cite quelques villes, Aurillac, Cognac, La Roche-sur-Yon, Bordeaux, Châteaudun, Blois, enfin bref, je ne vais pas toutes les citer. Et puis, dans la journée, entre 4 et 10 degrés, 4 à Dijon, 5 à Nancy, 6 à Lyon, nous atteindrons 7 à Paris, 9 à Bordeaux et 12 à Marseille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
L'idée de base, c'est faire confiance aux gens et de dire bah, si vous avez besoin de prendre des jours pour souffler, prendre des vacances pour déménagement, enfant malade, bah, vous posez, vous arrêtez de compter, de se dire mince, c'est ce qui va me rester assez de vacances pour l'été prochain ou pour Noël.
Des vacances illimitées à la carte. Un chef d'entreprise de la région lyonnaise a choisi d'accorder plus de liberté à son personnel et ça marche. Reportage au début de ce journal. Les Antilles et la Réunion se cadenassent à partir d'aujourd'hui. Isolement obligatoire pendant 7 jours pour les voyageurs qui arrivent sur place. Dans ce journal aussi, les confidences de Brigitte Macron sur les ambitions de son mari sur la prochaine présidentielle. Et puis le portrait de Phil Spector, le producteur américain de Let It Be, est mort hier à 81 ans.
Juste après ce journal, votre tout nouveau rendez-vous, La Touche Âme, nouveauté. Bertrand Chameroy a rejoint l'équipe de la matinale et vient décortiquer l'actualité. La 4e édition de Sport Féminin Toujours, promouvoir le sport féminin à la télé. Nous serons avec la présidente de la Fédération Française des Sports de Glace, Nathalie Péchala, invitée du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique de Nicolas Bétou avant de retrouver Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, le président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Imaginez un peu prendre autant de vacances que vous voulez, quand vous voulez, et sans demander la validation de votre chef. Eh bien, c'est ce que vient de mettre en place Anicop, une entreprise qui met au point des logiciels de gestion à Limonest, près de Lyon. Son directeur a choisi d'instaurer une relation basée sur la liberté et la bienveillance. Jean-Luc Boujon.
Didier, 50 ans, est un salarié heureux. Désormais des vacances, il peut en prendre autant qu'il le souhaite et quand il le souhaite. Un privilège qui est le résultat d'un travail commun entre la direction d'Anicop et ses 30 salariés.
C'est libérant. On peut imaginer plus facilement peut-être partir en voyage, quand ce sera possible bien sûr. On a élaboré ça ensemble, en essayant d'anticiper en termes d'efficacité au niveau des équipes, pour éviter justement de se retrouver avec quelqu'un qui est en vacances pendant un mois, du jour au lendemain. Donc on a mis des délais de prévenance, enfin, on a établi nos règles.
Mais c'est possible par exemple, si vous voulez prendre un mois de vacances.
Tout à fait possible. Mais du coup, il faut prévenir un mois avant. C'est les limites qu'on s'est fixées.
Autre limite, que les vacances ne mettent pas en péril un projet ou l'entreprise. Mais pour le reste, tout est possible car les congés sont automatiquement validés. L'objectif pour Nicolas Perrou, le patron d'Anicop, c'est que le salarié se sente bien.
L'idée de base, c'est faire confiance aux gens et de dire bah, si vous avez besoin de prendre des jours pour souffler, prendre des vacances pour déménagement, enfant malade, bah, vous posez, vous arrêtez de compter, de se dire mince, c'est ce qui va me rester assez de vacances pour l'été prochain ou pour Noël. Donc c'est un mode de réflexion qui est complètement différent. Mais aujourd'hui, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir un peu les choses.
Un patron qui croit en son projet. Dans un an, dit-il, je suis persuadé qu'on n'aura relevé aucun abus. Limonest, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
On va prendre rendez-vous, cela dit, avec le patron d'Anicop dans un an pour voir justement si ça fonctionne. Parce que le lundi matin, comme ça, si on vous dit vacances à volonté,
ça fait du bien.
Ça fait réfléchir deux, trois de nos auditeurs peut-être. À la une ce matin, la campagne de vaccination qui s'élargit aujourd'hui en France.
Ils peuvent désormais se faire vacciner les seniors de plus de 75 ans qui vivent à domicile et les personnes atteintes de pathologies lourdes, soit près de 6 millions de nouveaux candidats potentiels. Pour l'heure, un peu plus de 420 000 personnes ont été vaccinées dans tout le pays.
Dans les territoires d'outre-mer, l'inquiétude grandit après la découverte de 4 cas du variant sud-africain à Mayotte, un autre à La Réunion.
Alors en Martinique et en Guadeloupe, les autorités prennent les devants et durcissent les conditions d'entrée sur leur territoire. À partir d'aujourd'hui, les nouveaux arrivants devront s'isoler pendant une semaine avant de réaliser un test PCR. Stanislas Cazel, le préfet de Martinique.
Les territoires d'outre-mer sont des territoires de petite taille, donc le système hospitalier y est aussi plus fragile. Il n'y a pas de capacité, quand on a une difficulté, de déborder sur un territoire voisin ou sur une région voisine qui serait moins exposée. Dans l'Hexagone commence à circuler le variant anglais, qui est extrêmement contagieux. Et comme le territoire de la Martinique, comme la plupart des territoires d'outre-mer, sont pour l'instant relativement protégés, avec un taux d'incidence qui est en dessous du seuil d'alerte, nous avons ces mesures d'isolement qui évitent l'introduction d'un variant plus contagieux que les autres. Ces mesures auront sans doute un effet sur les personnes qui avaient prévu de venir passer une semaine de vacances. Effectivement, il peut y avoir des annulations de voyages. Un certain nombre de professionnels du tourisme auront besoin d'être soutenus, donc nous maintiendrons un dispositif d'accompagnement à chaque fois que c'est nécessaire.
Le préfet de Martinique, Stanislas Cazel, joint pour Europe 1 par Diane Berger. Le projet de loi confortant le respect des principes de la République sera examiné en commission à partir d'aujourd'hui. 51 articles et plus de 1700 amendements à décortiquer. En parallèle, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a adopté hier sa charte de principes de l'islam. Ses dirigeants seront reçus par Emmanuel Macron aujourd'hui.
La femme du chef de l'État, Brigitte Macron, était l'invitée du 20h de TF1 hier soir à l'occasion du lancement de l'opération Pièce jaune.
Interrogée sur les ambitions de son mari à propos d'une éventuelle candidature en 2022, la première dame affirme que ce n'est pas sa priorité en ce moment.
Je peux vous garantir que ce n'est pas sa préoccupation immédiate et qu'il, en tout cas, il ne m'en parle pas. Actuellement, son obsession, puisqu'il a dit que c'était une obsession, c'est de sortir la France au mieux de ce qui est en train de se passer.
Et vous, est-ce que vous avez envie qu'il se représente ?
Je n'ai pas mon mot à dire et je ne le dirai certainement
pas. Ça n'est pas une décision qu'on prend à deux ?
Non, c'est une décision qu'on ne peut pas prendre à deux, tellement elle est lourde. Parce qu'il faut être capable de gérer la suite. Et si on ne se sent pas appelé, si on ne se sent pas investi de quelque chose, c'est mission impossible.
Brigitte Macron, invitée du 20h de TF1 hier soir. En Russie, Alexei Navalny vient de passer la nuit derrière les barreaux, 6 mois après son empoisonnement présumé. Le principal opposant au Kremlin a été cueilli par les autorités dès son arrivée à Moscou hier soir. Plusieurs pays, dont la France, réclament sa libération immédiate.
Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais sa production, c'est sûr. On a appris hier soir la disparition du producteur américain Phil Spector. Il avait 81 ans.
Un producteur notamment des Beatles, pour ne citer qu'eux. Il a été très populaire dans les années 60 avant de se retrouver derrière les barreaux pour meurtre en 2003 jusqu'à la fin de sa vie. Son parcours avec Jean-Jacques Herry.
Au début de l'histoire, il y a un petit bonhomme malingre qui n'aime pas l'école et qui lui préfère la guitare et le piano. Son premier titre, le jeune Harvey Philip Spector, l'enregistre en 1958 avec des copains. « To know him is to love him ». Coup d'essai, coup de maître est déjà le sommet des charts. Spector n'a que 21 ans, il est millionnaire et il arrête de chanter. Car désormais, la musique, il va la produire. Il invente le mur de son qui devient sa légende avec des instrumentations doublées en studio pour plus d'intensité. Après l'Unchained Melody des Righteous Brothers, on s'arrache le génie. En 1970, on l'appelle auprès des Beatles. Paul, Ringo, John et George veulent se séparer, mais juste avant, dans une ambiance absolument détestable, le sorcier Spector leur arrache un dernier album. Mais le vent tourne et il amène une odeur de soufre, car travailler avec Phil Spector, c'est aussi subir sa bipolarité. Un jour, il menace Leonard Cohen avec une arbalète. Un autre, il braque un pistolet sur le bassiste des Ramones. Son aura s'étiole, l'homme disparaît peu à peu des consoles. Lorsqu'on le retrouve en 2003, c'est à la rubrique Faits divers. Accusé du meurtre d'une actrice, il est condamné à 19 ans de prison. C'est là qu'il est mort hier, loin, très loin de son ancienne carrière.
Le portrait de Phil Spector, signé Jean-Jacques Herry.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Les invités d'Europe Matin, notez bien le président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. On va parler du sport féminin à la télévision beaucoup aujourd'hui, mais avant cela, un tout nouveau rendez-vous. Bertrand Chameroy dans la matinale d'Europe 1. La touche âme, ça commence dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1. La touche âme, je vous l'ai promis, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous dans Europe Matin. Nous retrouvons Bertrand Chameroy tous les jours. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et vous allez décortiquer tout au long de l'année justement l'actualité avec votre regard. Ce matin, vous avez trouvé comment sortir la France de la crise sanitaire.
Oui, j'ai la solution Mathieu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle était sous nos yeux depuis le début. Cette solution, c'est...
Hervé Morin, Hervé Morin, Hervé Morin, Hervé Morin. Oui, Hervé Morin, le président les centristes de la région Normandie. Que dis-je ? L'homme providentiel. Alors, chez les Morin, il y a Christian qui manie à merveille la clarinette. Hervé, son truc, c'est plutôt le pipeau. Hein. Un virtuose invité de C'est à vous sur France 5, il en a profité pour remixer du Gérard Lenormand.
J'aurais été président de la République. Je vais vous dire ce que j'aurais fait.
J'aurais été président de la République. Eh ben, je peux vous dire qu'avec Hervé Morin à l'Élysée, ça aurait été une autre limonade qu'avec le Normand. Il n'aurait pas nommé Mini ou Tiquetac à la santé. Hein. Morin, c'est le Bernard Canetti de la politique. Et écoutez-le. Écoutez-le parler de la façon dont il aurait géré la campagne vaccinale. On dirait qu'il veut nous refourguer un régime comme j'aime.
Eh bien, je peux vous garantir qu'en 8 jours, ce serait réglé.
Non pas 30, non pas 15, mais 8. Oui, madame, 8 jours. Et on est tellement sûr que ça marche que la première semaine est gratuite. 8 jours. Et c'est autre chose que le cabinet McKinsey. Hein. Dommage qu'il ne soit pas président. Ah, ça tient à rien, une sortie de crise. Hein. Hervé Morin, c'est ce pote qui, pendant un déménagement, n'en fout pas une, te regarde galérer avec tes meubles et tes cartons et te lance la clope au bec. Ah, tu fais comme ça, toi. Ah, moi, j'aurais fait autrement. Ah, c'est con, vous m'auriez appelé, j'aurais bouclé ça en une heure. Il reste une bière ? Non, mais vous riez, Mathieu, vous riez. Mais je vous rappelle,
c'est du vécu, ça.
Ah bah oui. Je vous rappelle qu'Hervé Morin a un CV à faire pâlir toute la classe politique. Il a vécu l'histoire avec un grand H.
Moi qui ai vu en Normandie le débarquement des Alliés.
On parle d'un homme qui a vu les Alliés débarquer en 44, 17 ans avant sa naissance, ok ? Donc niveau logistique, il s'y connaît. À partir de là, je vois pas pourquoi il ne bouclerait pas la campagne vaccinale en 8 jours. Allez, assez perdu de temps comme ça, je lance officiellement sa campagne. Parce que demain s'écrit aujourd'hui. Hervé Morin 2022. Hervé Morin. En 44, il était à Omaha Beach. Il boucle une campagne vaccinale de tout un pays en 8 jours seulement. Hervé Morin règle tous les maux. Il fait également revenir l'être aimé en moins de 48 heures, assure la stabilité du foyer conjugal, protège contre les dangers et règle les problèmes d'impuissance. Alors qu'attendez-vous ? Hervé Morin, 2022. J-446, Mathieu.
Ça va être long, le second tour de la présidentielle. En tout cas, on vous retrouve J-1 dès demain matin, évidemment, Bertrand Chameroy. Ce sera tous les jours désormais la Toucham dans la matinale d'Europe. On vous retrouve tout à l'heure, à 10h, bien sûr, avec Philippe Vandel pour Culture Média. Ça ne change pas.
Ça ne change pas.
Ça va vous faire des bonnes journées.
Oh oui.
Oh oui, 7h42 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9.
Très bon réveil à tous. Opération Sport féminin toujours cette semaine. Comment promouvoir les compétitions féminines à la télé ? Mon invité, la présidente de la Fédération française des sports de glace, arrivée en plein scandale il y a un an, après les révélations de Sarah Abitbol, le départ de Didier Gayaguet. C'est aujourd'hui la seule femme à la tête d'une fédération sportive olympique, Nathalie Péchala.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Nathalie Péchala.
Bonjour.
On parle ce matin du sport dans les médias audiovisuels, la télé en particulier. C'est une initiative du CSA, hein, cette opération sport féminin toujours. L'idée que les diffuseurs ne jouent pas le jeu. Alors aujourd'hui, pour prendre les derniers chiffres les plus fiables, on a 20% de sport à la télé qui est du sport féminin, le reste c'est du sport masculin. L'idée que les diffuseurs ne jouent pas le jeu, ils vont vous répondre qu'à la télé on diffusera ce qui fait de l'audience, qu'il faut d'abord développer ces sports, ces disciplines. Est-ce qu'il faut, à votre avis, leur tordre le bras ?
Bah, c'est vrai que le fait d'avoir une semaine pour mettre en valeur le sport féminin, ça montre bien qu'il n'y en a pas assez. Après, on peut élargir un petit peu le débat et se dire qu'il n'y a pas suffisamment de sport en général. Alors certes, c'est bien la période du Covid qui nous retarde, mais c'est vrai que la médiatisation des sportifs, pour moi, elle devrait être un petit peu plus large pour donner envie aux gens d'en faire. Et c'est la particularité justement du sport féminin, c'est que même s'il est moins diffusé que le sport masculin, il incite une vraie pratique derrière de la part des pratiquantes.
Alors je donne le podium en termes de volume horaire, hein, ce qui passe le plus à la télé pour faire simple, c'est sur le podium d'abord du tennis en sport féminin, ensuite du football, du ski, du biathlon. Vous le soulignez en filigrane, Nathalie Péchala, c'est un enjeu de santé publique aussi. Si on veut que les femmes, les jeunes filles en particulier, fassent plus de sport, il y a la force de l'exemple, il faut le montrer.
Bah exactement, faut véhiculer les valeurs du sport, faut avoir envie de se lancer sur un terrain, et pour ça faut avoir des exemples d'effort, de résilience, de courage, et toutes ces valeurs sont rassemblées dans le milieu sportif.
Et on parlait dans le journal de 7h de Stéphanie Frappard, l'arbitre Stéphanie Frappard. Est-ce que vous êtes favorable, ça avait été évoqué il y a un an par Marlène Schiappa, à l'instauration de quotas, 50% de sport féminin dans la diffusion télé ?
Bon, en règle générale, je ne suis pas franchement pour les quotas, parce que j'aurais l'impression de faire des statistiques, et je pense qu'on est là pour travailler tous ensemble. Après, c'est la FFG, la Fédération des Sports de Glace, à laquelle j'appartiens, est une fédération un petit peu singulière, puisqu'on a une majorité de femmes, que ce soit au niveau des licenciés, 87% de licenciés EES, et au niveau du bureau exécutif ou de la direction de technique nationale, on a énormément de femmes. Donc je comprends que dans certains milieux verrouillés, politiquement, on a besoin de quotas pour faire sauter les verrous et évoluer.
Alors, je me permets de vous couper parce qu'il y a une autre particularité du côté de la Fédération des Sports de Glace. Pardonnez-moi, mais vous êtes la seule femme, c'est la seule fédération sportive olympique qui a une femme à sa tête.
Alors, depuis ce week-end, non. En fait, on est deux. Il y a aussi la présidente de la Fédération de hockey sur gazon.
D'accord, donc, j'ai raté l'élection. Excusez-moi, Nathalie Péchala, j'ai raté cette élection.
Il n'y a pas de souci.
Mais tant mieux, tant mieux.
C'est tout nouveau. Oui, oui. Et puis, vous savez, il n'y a pas besoin d'être présidente de fédération pour trouver un engagement dans le milieu associatif, le milieu sportif. Hein. On a bien sûr Sarah Ouramoun qui est vice-présidente du CNOSF. On a Marie-Amélie Le Fur qui est présidente du comité paralympique. Jeffrey Zeman qui s'implique au sein de sa fédération à travers le conseil fédéral. Donc, il y a aussi d'autres postes qui s'ouvrent aux femmes et de plus en plus. C'est vrai qu'au niveau des présidents de fédérations olympiques, on reste encore en toute petite minorité. Mais oui, mais le monde tourne.
Même dans les sports pratiqués principalement par des femmes, la gymnastique, l'équitation, là, ce sont des hommes qui sont à la tête de ces fédérations. Est-ce que ça joue, on va faire une transition avec ce qui vous a propulsé à la tête de cette fédération, est-ce que ça joue dans la libération de la parole, le fait que la tête des fédérations soit interdite aux femmes, avant que ça ne débloque des habitudes, les pratiques d'un autre temps, ça encourage difficilement à se remettre en question d'être entre hommes à la tête de ces fédés?
Je pense que c'est plutôt une question d'habitude. C'est pas, il n'y a pas d'interdiction. Hein. N'importe qui peut se présenter aux élections. C'est juste que peut-être que pendant un temps, ça a été compliqué pour les femmes de concilier la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie associative. Mais les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Il n'y a aucune friction. Je pense que ce qui limite beaucoup plus, en revanche, c'est le fait d'avoir des mandats illimité en tant que président de fédération. Et donc, quand on a un président, que ce soit homme ou femme, eh ben, il a du mal à être délogé et on a du mal à insuffler un souffle nouveau. Donc, l'idée, là, et c'est le travail qu'on est en train de faire avec le Comité national olympique et le ministère des Sports, c'est aussi d'avoir une limitation de mandat pour pouvoir ne pas avoir un président qui serait au-dessus et de tout le monde et irremplaçable, mais qu'on puisse justement avoir un turnover et un souffle.
Les limiter dans le temps. Votre expérience, Nathalie Péchala, un an après avoir remplacé Didier Gayaguet, un an après les révélations de Sarah Abitbol, c'était ce MeToo du sport aussi, c'était il y a un an. Est-ce que votre bilan, vous diriez, Nathalie Péchala, est positif aujourd'hui? Est-ce que vous rencontrez des blocages? Est-ce que vous arrivez à mettre en place ce que vous vouliez mettre en place pour changer cette organisation?
Alors sur le plan éthique, j'ai presque envie de vous dire que ça a été le dossier le plus simple à gérer puisque on partait d'une base neutre où il y avait pas grand-chose de construit. Donc on a mis énormément d'outils en place.
On partait d'une page blanche quoi pour parler de l'éthique.
Ouais, exactement. On a fait des codes de conduite, on a réactivé la commission disciplinaire, on a nommé des référentes intégrité, on a fait tout un circuit pour rassembler les témoignages des victimes ou des témoins, que ça soit traité via un comité éthique qui lui aussi a été créé. Donc ça a été le dossier, si vous voulez, où on avait beaucoup d'idées et on a pu les mettre en place avec un ministère des Sports aussi qui pousse sur l'honorabilité des bénévoles. Donc tout ça, ça s'est mis dans les premiers mois en place à la fédération. La partie compliquée, c'est celle liée au Covid.
C'est-à-dire ? C'est le fait que vous soyez arrivé en fonction et que juste après, on ait enclenché cette période de crise. J'imagine que sur la pratique au quotidien... Oui.
C'est-à-dire que ça fait 10 mois que je suis à la fédération et ça fait 10 mois que je gère une crise sanitaire, économique, avec des clubs qui sont en souffrance, avec des sportifs de niveau qui ont du mal à s'entraîner, qui ont du mal à être mobilisés alors que leurs Jeux Olympiques sont dans un an. Voilà, c'est tout ce dossier-là, cette partie-là où il faut tout le temps s'adapter, faire, défaire, qui est le plus complexe, et puis répondre forcément à l'incompréhension, parfois à l'incohérence soulevée par les différents acteurs du sport.
Et dans les mois qui viennent, le manque de visibilité, évidemment, j'imagine qu'il n'aide pas beaucoup avec ces jeux d'hiver. Hein. Vous parliez des jeux d'hiver qui sont dans un an.
Exactement.
Je voudrais terminer quand même sur ce qui s'est passé à la Fédération française des sports de glace ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, Nathalie Péchala, est-ce qu'aujourd'hui, un ou une jeune qui subit une forme de harcèlement de la part de son entraîneur sera mieux prise en charge ?
Forcément, on a donc cette fiche de signalement que vous pouvez retrouver sur notre site internet, qu'on envoie à la référente intégrité, qui mène une sorte d'enquête, qui transfère, selon un protocole bien établi et validé par le ministère, le dossier au comité éthique, qui peut statuer. Ensuite, moi, en tant que présidente, je peux saisir la commission disciplinaire, je peux me porter partie civile dans toutes les histoires de violences sexuelles. Je voudrais juste dire que c'est pas simplement l'entraîneur, ça peut être n'importe qui. On peut même recueillir des témoignages avec des prédateurs sexuels potentiels qui seraient au-delà du milieu sportif. Parce qu'on a beaucoup le cliché du méchant entraîneur et de la gentille petite colombe. Mais c'est pas toujours comme ça. Au contraire, il y a aussi entre les sportifs des soucis. Il peut y avoir des soucis, notamment à travers le bizutage. Donc nous, toutes sortes de témoignages. L'idée, c'est vraiment que le sport, le terrain sportif, soit un terrain où on puisse écouter et traiter les soucis.
Merci beaucoup Nathalie Péchala d'être revenue sur votre première année finalement à la présidence de la Fédération française des sports de glace. Je rappelle aussi tout simplement ce dont nous parlions au début de l'interview, l'opération Sport Féminin Toujours pour promouvoir le sport féminin dans les médias audiovisuels, à la télé en particulier. Nathalie Péchala, merci beaucoup. 7h51 sur Europe 1. L'édito politique, Nicolas Bétou dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est parti. La vaccination dite grand public démarre aujourd'hui sur tout le territoire en commençant par les plus de 75 ans et les personnes plus jeunes qui souffrent de maladies graves.
Oui, il était temps. Le premier choix stratégique du gouvernement était trop restrictif pour tenir très longtemps, surtout avec l'apparition de variants toujours plus menaçants venus de toutes les régions du globe. C'est devenu une évidence. Notre seule chance collective de limiter le nombre de victimes et de reprendre une vie normale, c'est le vaccin.
Mais pourquoi est-ce que ça a été si long à s'imposer ?
Lorsque ses interlocuteurs posent la question à Jean Castex, qui connaît très bien cet univers de la santé, le Premier ministre livre cette explication. Le ministère de la Santé est une administration de soins. Il ne sait pas faire de prévention. Et comme l'administration française est plutôt du genre diesel, ajoute le Premier ministre, ça démarre lentement. Mais une fois que c'est lancé, bon, ça tourne. Alors voilà, il semble que cette fois, ce soit enfin lancé et que ça devrait tourner.
Oui, Olivier Véran parle de 4 millions de personnes vaccinées fin février.
Absolument. Depuis la fin de la semaine dernière, on a eu un retournement complet de situation. Les candidats à la vaccination se manifestent par centaines de milliers. Un demi-million sur la seule journée de vendredi. Là où on entendait surtout les anti-vaccins depuis des semaines, on voit maintenant la foule de ceux qui veulent se faire vacciner le plus vite possible. C'est une mécanique très simple en marketing, le testimonial, faire parler les gens, donner la parole à celui ou à celle qui a testé. C'est beaucoup plus persuasif que n'importe quel discours politique.
Alors d'ailleurs, dans les sondages, les pro-vaccinations sont redevenues majoritaires.
Voilà, effet immédiat.
Et est-ce que ça veut dire que la partie est gagnée pour le gouvernement ?
Alors sur le plan politique, c'est sûrement la première fois depuis le début de cette séquence ratée sur la vaccination que la pression va pouvoir retomber. On a désormais plus de 800 centres de vaccination ouverts sur tout le pays. Il était temps, là encore. Les publics autorisés à se faire vacciner vont progressivement s'élargir et le gouvernement va pouvoir marteler un message général d'accélération et non plus de restriction de la campagne. Le seul risque, que les labos ne puissent pas livrer suffisamment de doses. Mais là, ce ne sera plus de la responsabilité des pouvoirs publics français, mais de la mécanique mise en place au niveau de l'Europe pour commander et répartir les vaccins entre les pays. Restera quand même, mais ce sera pour plus tard, hein, une grande question. Un pays comme la France qui a engagé près de 500 milliards d'euros en soutien d'une économie ruinée par le virus, n'aurait-il pas mieux fait de payer plus cher pour arracher plus vite davantage de vaccins, autrement dit pour faire davantage de prévention que de soins.
Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h. Il est 7h55, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1.
7h57, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, et puis avec un temps, ma foi, qui est bien froid ce matin, hein, des températures qui atteignent les moins 4 degrés du côté d'Albi, moins 2 à Agen, moins 1 à Cognac, 1 degré à Lille et Lyon, 2 à Clermont-Ferrand, 3 à Strasbourg, qu'a-t-il encore 4 à Paris, 5 à Marseille, 6 à Brest. Vous voyez que les températures ont bien baissé, elles vont radoucir dans les jours qui viennent, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que ces températures apportent un ciel clair, souvent un ciel dégagé, et donc nous avons, mais aussi beaucoup de brouillard malheureusement, mais nous aurons dans la journée un temps globalement ensoleillé sur la France. Alors, vous dites un temps, je vous disais à l'instant, un temps de brouillard, parce que les brouillards sont là, mais surtout ils sont givrants, vers Auch, vers Nantes, vers Châteaudun, Blois, Toulouse, Aurillac, Cognac, La Roche-sur-Yon, Bordeaux. Il y en a énormément sur la France, et énormément de brouillards qui givrent, et donc ils sont dangereux pour la circulation. Alors, maintenant, que va-t-il se passer? Bien, tout ceci va se dégager. Haute-Normandie, Champagne-Ardenne, Berry, Val-de-Loire, Poitou-Charentes et Mâconnais, Lorraine-Alsace, les brouillards seront là, mais ils vont se disperser et ils laisseront place à de courtes éclaircies. À Lyon, par exemple, ce sera de courtes éclaircies et puis à Paris, ce sera de belles, nous aurons de belles éclaircies. La pluie arrivera sur la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique et puis le sud-ouest, le massif central, des régions comme la région les Vallées Alpines, sont sous de là franchement un soleil presque présent. Je suis sûr que vous êtes intéressé, mon cher Mathieu, par le soleil tout court, celui qui va régner sur le Midi-Pyrénées, surtout sur le bassin méditerranéen, avec des vents de 50 à 60 km/h. Voulez-vous les températures ?
Allons-y.
Bon, 5 degrés à Belfort, 3 degrés à Belfort, 4 à Dijon cet après-midi, 5 à Nancy, 6 à Lyon, 7 à Paris et Lille, 8 à Toulouse, 9 à Bordeaux, 10 à Biarritz et 12 degrés à Marseille. C'est vraiment un temps qui est en train de. Enfin, températures qui sont en train de grimper. Hein.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Et à 7h59, on l'a retrouvé Nicolas Canteloup qui conseille tous les jours à sa manière l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Jack Lang, ancien ministre de la Culture, ancien ministre de l'Éducation nationale, président de l'Institut du Monde Arabe. Et c'est bien sûr Roselyne Bachelot qui est venue le saluer. Ça a été un grand ministre, Jack Lang.
Oh, écoute, Mathieu, un grand ministre, enfin, il a eu une seule idée, la technoparade qui consiste à quoi ? À écouter la musique techno trop forte sur des bus cabriolets avec une plume fuchsia dans les fesses, hein ? Et on dit que c'est le plus grand, le meilleur. Mais c'était facile, il n'avait pas le Covid à gérer, lui. Moi aussi, vous savez, j'en ai plein des grandes idées.
Ben, on vous écoute, Madame Bachelot ?
Eh bien, j'avais pensé à faire une pecno-parade avec tous les hommes mal sapés. Monsieur Bétou, aidez-moi, donnez-moi des noms, je ne sais pas qui on pourrait mettre.
Ah oui, des noms, Nicolas.
Non, pitié. Ouais, il n'ose pas. Oui, Castex, c'est bien. Ah, oui. Christian Jacob, très bien.
Et votre serviteur, Jean Lassalle.
Oui, on peut le mettre en tête de la pecno-parade. Tout à fait, oui.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale, Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe à 8h15. Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure à 8h45 pour la revue de presse.
Europe Matin. Le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde.